Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une vingtaine de représentants de partis politiques, autant de membres du gouvernement, des personnalités aussi. Les rassemblements contre l'antisémitisme s'annoncent suivis ce mardi. Le philosophe pris pour cible Alain Finkielkraut, en revanche, ne devrait pas se mobiliser. Il nous expliquera pourquoi dans un instant.
Et puis nous analyserons aussi la proposition de députés de pénaliser l'antisionisme au même titre que l'antisémitisme.
Dans ce journal, vous entendrez également les inquiétudes de l'ancienne maternité de Creil. Elle a déménagé dans une autre commune, aberrant sur le plan financier et social, disent les praticiens et la mairie.
Quelle doléance entend-on lors des débats nationaux plus d'un mois après leur lancement? Reportage à suivre auprès d'étudiants mobilisés dans la Somme, c'est notre feuilleton de la semaine.
Et puis nous irons à Miami aux États-Unis. Donald Trump y a menacé les militaires qui soutiennent le président vénézuélien Nicolas Maduro. Et d'abord donc cette mobilisation annoncée contre l'antisémitisme. Des rassemblements se préparent un peu partout en France aujourd'hui. Le plus grand d'entre eux devrait être à Paris, où vont se rejoindre des dirigeants d'une vingtaine de formations politiques, ainsi que la moitié du gouvernement, Édouard Philippe, le Premier ministre en tête. Rendez-vous est prêt à Paris, place de la République, à partir de 19h. Alors que les actes antisémites se multiplient ces derniers temps dans le pays, dégradations, insultes, violences. Ce soir à Paris, seul le Rassemblement national de Marine Le Pen va organiser un cortège seul de son côté. L'académicien et philosophe Alain Finkielkraut, lui, n'ira pas. Il a été insulté parce qu'il est juif samedi dernier à Paris lors de la mobilisation des Gilets jaunes. Il ne veut pas, dit-il, tirer la couverture à lui après cela. Et se dit aussi mal à l'aise avec le fond de la mobilisation annoncée ce mardi. Alain Finkielkraut s'en est expliqué hier soir lors d'un débat organisé par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA.
Le plus virulent, celui qui m'a dit « rentre à Tel Aviv », a dit aussi « la France est à nous ». C'était très vraisemblablement un salafiste. Il en avait l'allure, la barbe. Et d'ailleurs, il m'a dit « Dieu va te punir ». C'est lui d'ailleurs, je crois, que les policiers ont déjà identifié. Ce qui me gêne dans la mobilisation, c'est-à-dire il y a eu une croix gammée sur le portrait de Simone Veil, il y a un Juden, etc. Et donc, on y revient, on se mobilise, etc. contre ce qui, si j'ose dire, le bon vieil antisémitisme, celui qu'on aime détester. Est-ce que c'est lui qui est à l'œuvre? C'était pas lui qui était à l'œuvre contre moi, en tout cas. Et est-ce que c'est lui qui est à l'œuvre de manière générale en France? Je ne le crois pas. Alors on va dire, il ne faut surtout pas que le Rassemblement National participe à la manifestation. Mais c'est un problème, parce que, je veux dire, tous les partis républicains devraient être invités. C'est un parti républicain, un nombre très considérable d'électeurs, et quand même une rupture au moins apparente de Marine Le Pen avec son père, puisqu'en plus elle l'a viré de son parti.
Voilà des propos d'Alain Finkielkraut recueillis par Jérôme Jadot. L'antisémitisme sous toutes ses formes, encore, puisque nous avons appris hier l'arrestation de deux adolescents qui ont tiré vendredi à la carabine à plomb devant une synagogue de Sarcelles dans le Val d'Oise. Un homme a été légèrement blessé. Quelles que soient les motivations de chacun, un rassemblement est donc organisé ce soir à Paris, notamment en présence de nombreuses personnalités. Cela peut-il être un tournant? Question que posera Frédéric Saïs dans son billet politique. Ce sera après ce journal. Et quelle réponse donner à ce type d'agression verbale, comme l'a subi Alain Finkielkraut notamment? Une trentaine de députés ont décidé de proposer la pénalisation de l'antisionisme. Ils vont décider cet après-midi s'ils déposent un projet de résolution non contraignante ou une proposition de loi. Mais déjà, les mises en garde sont nombreuses. Quels arguments de part et d'autre? Ils sont exposés pour nous ce matin par Stéphane Robert.
Pour le président du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée, le député La République En Marche, Sylvain Maillard, l'antisionisme aujourd'hui est une manière pour certains d'exprimer leur antisémitisme sans le dire publiquement. C'est la raison pour laquelle il convient, selon lui, de pénaliser l'antisionisme.
L'antisionisme, c'est l'antisémitisme moderne. Parce qu'en fait, derrière, quand vous dites « mort à Israël », en fait, c'est une nouvelle façon de dire « mort aux Juifs ». C'est la même chose. Voilà, ça fait partie d'une évolution que doit avoir notre droit pour combattre l'antisémitisme.
Deux ministres du gouvernement ont d'ores et déjà exprimé leur réticence, notamment la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, pour qui il faut faire attention à ce que l'on veut condamner. Car l'antisionisme à l'origine se définit par l'opposition à la doctrine politique de Théodore Herzl, qui prône au XIXe siècle la constitution d'un État juif. On est donc là dans l'opposition à une idée politique. Ce qui, pour le politologue Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, relève en partie de la liberté d'expression, ce qui dès lors pose un problème constitutionnel.
Il faut prendre tout ça avec une extrême précaution et éviter de le faire sous le coup de l'émotion, et c'est un sujet éminemment passionnel sur lequel il faut prendre le temps de regarder les choses. On avait beaucoup critiqué le président Sarkozy sur le mode « un fait divers, une loi ». D'une certaine manière, on continue.
Ne pas faire comme Nicolas Sarkozy et légiférer sous le coup de l'émotion, c'est d'autant plus nécessaire, selon de nombreux juristes, que l'arsenal juridique est, disent-ils aujourd'hui, suffisant pour condamner l'antisémitisme, même quand il se cache derrière l'antisionisme.
Un arsenal juridique suffisant, c'est en effet ce qu'estime le juriste Nicolas Hervieux. Il est chargé d'enseignement à Sciences Po, spécialiste en droit des libertés.
On peut vraiment tout à fait aller identifier derrière ces propos antisionistes, des propos antisémites. C'est en réalité ce que font les juges au cas par cas. Si on prend l'affaire Dieudonné, qui est un cas symptomatique, derrière les propos humoristiques liés à la liberté d'expression artistique, le juge, au fil du temps et au fil de l'accumulation des récidives de l'intéressé, a fini par tout simplement déchirer le voile, et on a pu clairement identifier ce discours antisémite. Donc c'est un faux débat en réalité de considérer qu'on ne peut pas lutter contre le discours antisioniste qui euphémiserait l'antisémitisme, parce qu'en réalité, il suffit d'un débat judiciaire, tout en laissant le champ libre au débat politique public sur des questions aussi importantes que la politique du gouvernement d'Israël ou potentiellement le sionisme en tant que doctrine politique. De la même manière qu'on pourrait s'interroger sur le communisme ou sur le nazisme, ce n'est pas la même chose que proférer des propos contre les personnes que d'interroger un débat politique et des philosophies politiques.
Le juriste Nicolas Hervieux, interrogé pour France Culture par Florence Turm. Là, il s'agissait d'attaques ciblées, signalées par les pouvoirs publics et les associations comme des actes et surtout des propos antisémites à plusieurs reprises, des discours de haine. Le compte Twitter de l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol a été suspendu. C'est ce qu'a annoncé hier Twitter France. Ajoutons enfin qu'Emmanuel Macron, le président de la République, assistera ce soir au dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, où il donnera un discours. Combien de maternités fermées en France, à quel prix et pour quel profit? Hier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a confirmé la fermeture de la maternité de Bernay dans le département de l'Eure. Elle procédait à 312 accouchements par an, trop peu selon l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, c'est un autre établissement qui attend une décision, la maternité de Creil dans l'Oise. Elle défend son avenir devant le tribunal administratif d'Amiens. Ce service accueillait jusqu'au 26 janvier dernier 1600 naissance, mais il a été transféré à 12 km de là, à Senlis, dans un hôpital plus modeste. Le personnel, avec les collectivités locales, se bat contre ce déménagement, Tara Schlegel.
Depuis trois semaines, les habitantes de Creil vont accoucher à Senlis, dans un établissement certes rénové, avec de belles chambres, mais qu'il a fallu aménager car il n'était pas de niveau 3, contrairement à la maternité de Creil, qui est maintenant vide. Paul Sébron a dirigé le service de gynécologie à Creil et il a pris la tête du comité de défense de la maternité. Il rappelle que la petite maternité voisine de Senlis vient d'être dotée d'un nouveau service de réanimation néonatale, mais ce n'est pas assez.
Il s'agit d'une maternité qui va être isolée, sans services médicaux qui nous sont nécessaires dans de telles situations.
C'est-à-dire
nous avons besoin de temps en temps des conseils d'un pneumologue, d'un neurologue, d'un cardiologue, etc., qui n'existent pas sur Senlis. Senlis ne possède plus de services de réanimation adulte. Et donc les femmes qui nécessiteraient éventuellement, et c'est le cas, des maternités de niveau 3, des soins de réanimation. Les femmes devront être transférées de Senlis sur Creil, ce qui, évidemment, n'est pas raisonnable.
Les autorités sanitaires ont voulu cette répartition territoriale. Beaucoup de femmes vont en pâtir, prédit le gynécologue.
Les deux villes sont distantes de 12 km, mais il n'y a pas de transport en commun. 40% de la population de Creil n'a pas de véhicule. Ça correspond à la partie la plus populaire de Creil. C'était une maternité d'un ensemble, on va dire, urbain, pauvre, pour lequel un service public correspond à une nécessité.
Les plaignants, le maire de Creil en tête, vont tenter de faire annuler le déménagement aujourd'hui, mais concrètement, la maternité a déjà fermé.
Les fermetures de maternité, c'est l'un des thèmes des revendications des Gilets jaunes. Pour en parler, le grand débat national se poursuit. À partir de 9h ce matin, notamment, une dizaine de membres du gouvernement seront sur la plateforme de jeux vidéo Twitch. L'idée est de débattre avec un public plus jeune. Des jeunes qui débattent, c'était le cas hier ici même, dans un reportage reportage du journal de 8h à Sèvres avec des collégiens. Eh bien, ce matin, nous vous emmenons à Amiens auprès d'étudiants. Ils se sont installés dans la gare d'Amiens, département de la Somme, où les grands débats ne sont pas très nombreux. C'est un reportage de Lise Verbeck.
Un binôme d'étudiants à Sciences Po Lille est posté dans le hall de la gare, encadré par deux affiches « Grand débat national ».
Allez, c'est parti.
Mais les voyageurs s'arrêtent peu devant le stand, pressés de monter dans leur train. Lina prend alors les devants.
Ça vous intéresse de participer au grand débat national ?
Et elle essuie beaucoup de refus.
Quand il y a des mouvements, il faut que le peuple suive les mouvements, quoi.
Oui, mais justement, je pense que là, c'est une occasion de, au-delà d'un mouvement d'un seul secteur, c'est l'occasion pour n'importe qui de pouvoir donner son avis. Vous voulez pas que je fasse un petit papier pour y réfléchir quand même ?
Ça vous embête pas plus.
Non, mais
c'est pas de rancœur, rien, mais je veux dire, après, en partant de là. Pour moi, les jeux sont faits, donc il n'y a même pas à participer à quoi que ce soit.
Merci en tout cas.
Bonne journée, bon week-end. Au revoir, mesdames.
C'est dur de les convaincre, oui et non. Il y en a qui sont juste pas au courant, il y en a qui sont juste pas légitimes, il y en a qui sont juste lassés. Je pense que c'est plus pour les personnes lassées que c'est le plus dur de les convaincre. Les autres, c'est juste faire un travail d'information pour essayer de leur faire comprendre qu'ils peuvent participer et que tout le monde a le droit à participer à ce débat.
Là, on est dans la thématique. Par exemple, sur la question du vote blanc dont vous me parliez précédemment, démocratie, citoyenneté, ça rentre intégralement dedans, quoi.
Mais j'avais pas que ça comme...
Cet amiénois, membre des forces de l'ordre, prend le temps de formuler plusieurs propositions.
Excusez-moi pour l'écriture.
Notamment concernant les contrôles de police.
Le récépissé. Moi, je suis allé en Angleterre. Je me suis fait contrôler. Ils m'ont remis un récépissé. La date, l'heure du contrôle, le motif du contrôle, le numéro de l'agent, etc. Comme ça... S'il y avait le moindre souci, je pouvais aller me plaindre. Je savais à qui j'avais affaire, etc. Et donc, en France, ça n'existe pas.
Et c'est le thème de la fiscalité qui revient le plus souvent.
Moi, je suis célibataire, je gagne 2600 euros et je paye 2300 euros à l'année, quoi, d'impôts sur le revenu, quoi. J'estime qu'il y a des gens qui, par exemple, un couple, qui gagne beaucoup plus d'argent que moi, peut-être avec des enfants, mais avec du fait des dégrèvements, bah, finalement, ils vivent mieux que moi.
Les deux étudiants ont passé deux jours dans la gare d'Amiens à inciter les voyageurs à participer au débat. Avec ce constat, il est difficile de convaincre les jeunes.
Lise Verbeck depuis Amiens. Demain, nous irons à Toulouse écouter un débat auprès des chefs d'entreprise. Notons dans l'actualité encore deux jugements. Le comédien et metteur en scène Philippe Cobert a été blanchi des accusations de viol qui pesaient contre lui. Le parquet a jugé que les accusations d'une ancienne fémène n'étaient pas étayées, pas prouvées. Et puis le tribunal de Paris a autorisé hier la sortie du film Grâce à Dieu du réalisateur François Ozon. Nous en parlions hier. Il s'est inspiré du combat mené par des victimes lyonnaises du prêtre Bernard Prénat, poursuivi pour pédophilie. Aujourd'hui, la justice doit se prononcer sur une autre procédure du même type, mais à Lyon cette fois.
8h12 sur France Culture, la suite du journal dans les matins, le journal de Clara Lecoq-Réal. 16 États américains déposent un recours contre l'administration de Donald Trump.
Oui, ils contestent en justice l'urgence nationale décrétée par le président américain pour construire un mur à la frontière avec le Mexique. Cette procédure judiciaire pourrait ralentir les démarches engagées par Donald Trump. Le président américain qui par ailleurs s'en est pris directement aux militaires pro-Maduro hier, dans un discours prononcé devant la communauté vénézuélienne de Miami, il a affirmé que si les militaires au Venezuela ne laissaient pas entrer l'aide humanitaire, alors ils n'auraient pas d'endroit où se réfugier. Grégory Phillips a assisté à ce discours.
Dans cette foule de l'Université internationale de Floride, on voit autant de drapeaux vénézuéliens que de drapeaux américains. Pour l'occasion, Donald Trump a demandé à la première dame de venir s'adresser au public, Melania Trump, elle qui est née dans la Slovénie socialiste des années 70, dit ceci. Beaucoup d'entre vous savent ce que c'est de découvrir la liberté après avoir vécu sous l'oppression du socialisme et du communisme. Puis, entre deux diatribes enflammées contre le socialisme latino-américain, le président des États-Unis menace clairement les militaires qui soutiennent encore le régime de Maduro. Ce qu'on veut, c'est une transition du pouvoir pacifique. Mais attention, toutes les options sont sur la table. Le meeting est aussi marqué par une intervention enregistrée en duplex du président autoproclamé Guaido qui remercie les États-Unis. Enfin, Donald Trump, devant une foule d'exilés enthousiastes, promet la fin prochaine de ce qu'il appelle les dictatures du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua. Un jour, bientôt, avec l'aide de Dieu, nous verrons ce que le peuple est capable de faire à Caracas, à Managua et à La Havane.
C'était un reportage de Grégory Phillips, notre correspondant outre-Atlantique. Il avait la passion du beau. Voici l'hommage du ministre de la Culture, Franck Riester, à l'éditeur d'art, Xavier Barral. Il est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à son domicile parisien. En 2002, encouragé par un autre éditeur, Hervé de la Martinière, et par Daniel Buren entre autres, il avait créé les éditions Xavier Barral, publié alors son premier livre, Mot à mot de Daniel Buren. Xavier Barral avait 63 ans. Le temps de ce mardi sera un peu plus instable avec une perturbation pluvieuse qui traverse maintenant la moitié est de la France, mais elle va s'estomper au fil de la journée pour laisser place à de belles éclaircies encore. Comptez 7 degrés ce matin à Strasbourg, 8 à Lille et Nantes, 9 degrés à Paris, 10 à Lyon et Marseille, la maximale ce matin 12 degrés à Bordeaux et Bayonne.